tous les homicides commis au Québec, incluant les affaires non élucidées, vues à travers les archives nationales et les documents légaux. Bienvenue sur Mémoire d'archives. Avant d'entrer dans les détails et de vous parler directement de ce qu'est le féminicide, et je dis bien de ce qu'est le féminicide dans le détail, nous allons nous plonger dans plusieurs cas pour savoir un peu, découvrir, non un cas à la fois comme on voit dans les médias, à l'occasion, donc on n'a pas le temps, on regarde ça assez rapidement, mais on va prendre le temps vraiment de se pencher sur la question et d'étudier le phénomène du féminicide. Mais avant d'aborder le sujet de front, laissez-moi vous raconter une histoire, c'est-à-dire l'histoire d'une jeune fille de 18 ans qui a épousé un jeune homme de 21 ans. Jusque-là, rien d'anormal. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils s'aiment. Mais en quelques jours seulement, la jeune fille de 18 ans s'aperçoit que son mari, finalement, tout de suite après le mariage, son comportement s'est transformé. Et de façon assez radicale, il devient possessif, jaloux, et se met même à la battre, tout simplement, en la frappant à plusieurs reprises. Et il s'en cache même pas parce que l'entourage de la jeune fille finit par voir assez rapidement là, ce qui se passe et tout ça. Si bien que la jeune fille retourne vivre chez son père, qui lui essaie de la protéger tant bien que mal et tout ça. Mais avec le recul, avec le mariage et tout ça, elle finit par se dire, ben peut-être qu'il a changé, peut-être qu'on peut le, maintenant que tout le monde est au courant, peut-être qu'on peut essayer de le transformer. Alors, tranquillement, son entourage reste présent. On essaie de l'encadrer, mais on permet au jeune homme de revoir sa jeune épouse. Voilà, donc la relation reprend tout doucement, tranquillement. Et pas longtemps après, à la sortie d'un événement, où ils sont allés assister ensemble, le jeune homme dit, pourquoi pas aller prendre une marche un petit peu plus long, essayer de discuter ensemble et tout ça. Donc la jeune fille, pensant probablement que son copain essaierait de lui parler sérieusement, qu'il finirait par gagner en maturité et qu'il finirait par changer, évidemment. Donc, elle accepte de continuer. Donc, la marche se poursuit. Donc, cette marche-là se poursuit jusqu'à un commerce que possède le jeune marié. Et dès qu'il entre naturellement, dans un geste tout à fait naturel, il empoigne une hache et se met à frapper sa jeune épouse, la jeune fille de 18 ans. Il la frappe à la tête et ensuite il lui entaille le cou avec un rasoir. La croyant morte, il verrouille la boutique derrière lui et il prend la fuite. Quand on découvre la scène, la jeune fille est encore vivante. C'est étonnant, mais en effet, elle est toujours vivante. Elle a la gorge tranchée. On essaie de lui recoudre la gorge pour tenter de la faire parler, tenter de lui permettre de faire une dernière déclaration avant de mourir, parce qu'on comprend évidemment, sans peut-être qu'on l'ait dit sur place, on sentait qu'elle ne survivrait pas à son attaque. Et ce qu'on raconte, c'est que on lui a recousu suffisamment la gorge pour lui permettre de parler juste assez pour qu'elle puisse raconter ce qui s'était produit. Donc, la scène qui allait finalement lui coûter la vie. Non seulement je vous ai parlé d'une scène assez horrible, mais la jeune fille en question, qui est décédée peu de temps après, a emporté une vie aussi avec elle parce qu'elle était enceinte. L'histoire que je viens de vous raconter ici, peut-être que vous allez vous dire, est-ce que j'ai entendu ça dernièrement à la télé, dans les journaux? Les journaux, c'est peut-être moins populaire. Sur Internet, est-ce que j'ai vu ça récemment? C'est fort probable que ça vous dise rien parce que l'action se passait en 1833 à Montréal. Pour être plus précis, c'est le 24 mars. Et la jeune fille s'appelait Euphrasine Martineau, 18 ans. Elle a été assassinée par son mari, Adolphus Dewey, qui lui avait 21 ans. Il a subi son procès, c'est-à-dire qu'il a pris la fuite aux États-Unis une première fois. Et on l'a rattrapé, on l'a ramené, on lui a fait son procès et il a été pendu. On va retenir ça parce que c'est quand même un des premiers cas de féminicide ou de meurtre entre conjoints. Et le résultat n'est quand même pas rien. Là, le conjoint en tant que tel, le conjoint fautif, a été pendu. Là, vous allez me dire que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Non, évidemment, le système judiciaire s'est transformé énormément. Mais j'ai voulu vous cacher la date au début, volontairement, pour vous montrer que peut-être que vous avez pensé que c'était un scénario qui pouvait aussi bien se passer aujourd'hui qu'il y a 100 ans ou 150 ans ou 200 ans. Donc, tout cela pour vous dire que finalement, le féminicide est là depuis très longtemps, même si le mot est tout récent, depuis peut-être 2-3 ans dans les médias. Même, je ne suis pas tout à fait d'accord. Il y en a qui vont crier au loup, là, mais je m'en fous pas mal. Il y en a qui vont dire, qu'ils ne sont pas d'accord avec moi, mais moi, je ne suis pas d'accord avec le terme féminicide parce que c'est beaucoup trop large. Je vous donne un exemple. Le mot homicide est là depuis des lunes. Depuis des centaines d'années, et surtout dans le code criminel, là, depuis sa création, depuis son entrée en vigueur le 1er juillet 1896. Alors, homicide, qui voulait dire juste le mot homicide? Voulait dire une personne tuée par une autre personne, donc il faisait pas de sexisme ou quoi que ce soit. Ça concernait les deux sexes, les hommes et les femmes. Alors que féminicide, on nous le présente maintenant comme uniquement les femmes. Et on veut être plus précis. On veut essayer d'englober dans un seul mot les meurtres des femmes par leurs conjoints. Mais féminicide, si on le prend comme ça, ce serait l'équivalent d'homicide. Donc ça voudrait juste dire que la victime est une femme, peu importe le contexte, peu importe la catégorie de crime. Alors, je suis plus ou moins d'accord. Et je dirais que c'est imprécis. Puis je vais vous dire pourquoi, parce que si on veut absolument nous imposer le mot féminicide pour les meurtres entre conjoints, c'est très imprécis parce que cette catégorie-là, il faut la séparer d'abord au moins en deux catégories, en deux sous-catégories, pardon. Et je l'ai déjà dit dans une précédente balado, mais là on va y aller plus en profondeur. Alors il faudrait séparer ça entre d'abord l'homicide domestique par un conjoint suicidaire et l'homicide domestique par un conjoint non suicidaire, parce qu'il y a des différences entre les deux. Et dernier argument aussi, quand on parle de féminicide, si on veut parler d'homicide entre conjoints, bien je pense que c'est péjoratif aussi envers les couples homosexuels, parce que malheureusement c'est arrivé et ça arrivera encore probablement aussi entre eux. Alors, eux, qu'est-ce qu'on va dire? On va inventer encore un autre mot, là. L'homicide, l'homo homicidius. À un moment donné, on ne le sait plus. Donc, ici, dans la balado, on va s'en tenir principalement entre homicide par un conjoint suicidaire ou non suicidaire. Donc, dans le cas qu'on vient de voir, justement, de 1833, qui a coûté la vie à Euphrasine Martineau, 18 ans, bien, c'est un homicide domestique par un conjoint non suicidaire. Et avant d'entrer dans les détails, on va voir quand même plusieurs cas. Et vous allez comprendre pourquoi que tous les détails sont importants. Donc, le lieu de l'action, plus ou moins important, parce que le lieu n'a pas vraiment une influence sur la façon de tuer. C'est juste de dire où s'est passée l'action et où vivait le couple, finalement. Mais, le conjoint ici, qui est non suicidaire, il a utilisé une arme blanche. Donc, dans les deux cas, deux armes blanches, mais deux armes différentes. Donc, la hache et le rasoir. Et voilà, j'en dis pas plus, on va revenir plus tard. Mais comme je l'ai dit, il a fini, lui, au bout de la corde. Pour reprendre le terme des médias, le féminicide, le plus ancien cas de victime entre conjoints, que j'ai pu répertorier remonte au 9 mai 1795, donc à la fin du 18e. Il y en a certainement eu avant, peut-être, mais bon, de l'époque de la Nouvelle-France, j'ai pu en répertorier aucun. Est-ce que les Français sont mieux que les autres? Je ne pense pas, mais vraiment pas du tout. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a tout simplement pas. Est-ce que le contexte faisait en sorte que ces crimes-là n'étaient pas encore apparus ou il n'y avait pas de pression de quoi que ce soit? J'en ai aucune idée. Mais l'homicide, voilà, on va y revenir. En 1795, la victime s'appelait Brigitte Cavanna. Elle aussi a été tuée par un conjoint non suicidaire et lui aussi a utilisé une arme blanche, dans ce cas-ci une baïonnette. Et l'action se passait à Québec. Donc le fautif dans ça a été, était son mari, Charles Cavanna, qui a été reconnu criminellement responsable suite à l'enquête du coroner. Et qui s'est déroulé dans la casemate près de la porte Saint-Louis à Québec le 5 novembre 1795. Brigitte était l'épouse de Charles, comme on a dit. C'est un soldat, en passant. Donc, peut-être, est-ce qu'il a voulu utiliser de son autorité militaire qu'il a tué sa femme de deux coups de baïonnette dans le côté droit de la poitrine. Mais on ignore ensuite ce qu'il est devenu. C'est malheureux. J'aurais aimé ça savoir qu'est-ce que la justice lui a réservé. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a été criminellement responsable par le coroner, mais ensuite, est-ce qu'il a été acquitté, condamné ou blanchi ou quoi que ce soit, je n'en ai malheureusement aucune idée. Ensuite, on se transporte au 3 septembre 1808. La victime s'appelait Rachel Craig. Encore une fois, c'est un homicide par un conjoint non suicidaire, donc est-ce qu'on doit en déduire déjà que les conjoints suicidaires sont apparus beaucoup plus tard? Aucune idée, je ne veux pas avancer de choses gratuitement. Dans son cas, la façon qu'elle a été tuée, donc elle a été battue à mort, c'est survenu sur la rue des Ursulines à Québec. Son mari a été accusé de meurtre dans cette affaire-là, mais on ne connaît pas aucun autre développement, là, c'est comme le cas précédent de M. Cavanna. Mais on sait que, selon la Gazette de Québec, le corps de Rachel a été trouvé au rez-de-chaussée d'une maison située sur la rue des Ursulines à Québec. Elle portait plusieurs ecchymoses, en particulier sous la poitrine, donc peut-être des coups de poing à l'abdomen et tout ça. Ses blessures semblaient être le résultat de coups violents. De plus, on l'aurait frappé derrière la tête. Selon la fille de Rachel, donc c'est son père qui était le meurtrier. Donc sa fille, elle a accusé son propre père. Donc est-ce que ça veut dire qu'elle a été témoin de la scène? Je ne sais pas. D'ailleurs, l'homme avait pour habitude d'entretenir un climat de violence conjugale. Voyez-vous, c'est d'autres détails. C'est rien de nouveau. Hein? C'est des hommes violents qui sont à l'origine de ces crimes-là. Le coroner a conclu au meurtre. Ce qui n'est pas une surprise. Malheureusement, on ignore l'identité de son mari. J'ai pas fait la recherche généalogique là, pour voir qui était le mari de Rachel Craig. Mais si toutefois vous le trouvez, eh bien, vous serez la bienvenue pour l'information. Et bon, bref, on fera peut-être une petite entrevue ensemble pour présenter tout ça. Mais ce serait intéressant de peut-être pouvoir l'identifier. Mais bon, il a été renvoyé subir son procès, donc il devait subir son procès, c'est ça qu'on sait. Et toujours selon la Gazette, il semble qu'un de ses enfants, âgé de 9 mois, soit resté avec la victime jusqu'à ce qu'on découvre la scène de crime. Donc, c'est un peu un climat un peu pervers. Et ce jeune enfant n'a pas survécu, malheureusement. On saute quelques décennies pour se retrouver en 1850, plus précisément le 15 septembre. Cette fois-ci, c'est une Madame Charlton qui est victime de son mari, encore une fois. C'est un homicide domestique par un conjoint non suicidaire. Encore une fois, on fait affaire avec un non suicidaire. Il a battu sa femme à mort, donc ici, encore une fois, à coup de poing. L'action se passe à Sorel. Le mari en question qui a été accusé s'appelait John Charlton. Lui, il était soldat des carabiniers royaux. Il a été accusé à Sorel, donc la même année que le crime. Ce qu'on dit, c'est que peut-être que ça vient de la défense là, au moment du procès. Ça, c'est possible. Mais on raconte que Mme Charlton aurait tenté de le frapper avec un couteau. Puis c'est là que M. Charlton aurait tenté de se défendre. Et il l'aurait tué avec un seul coup de poing. C'est quand même pas rien. C'est louche. Mais bon, c'est possible aussi. Et probablement en raison de cette histoire-là, ben évidemment, il s'en est sorti. Il a été acquitté. Le 25 août 1861, cette fois la victime s'appelait Josée-Anna Shaw. C'est le premier homicide, donc le plus ancien homicide domestique par un conjoint suicidaire. Et on va remarquer, je vous fais remarquer tout de suite ce que les résultats de mes recherches ont fini par dévoiler après plusieurs années. Il a utilisé une arme à feu, lui, pour la tuer. Et on va voir que dans beaucoup de cas, dans les cas impliquant des conjoints suicidaires, une grande majorité d'entre eux choisissent l'arme à feu pour commettre leur crime. Là donc, l'action en 1861 se passe à Saint-Jean-sur-Richelieu, en Montérégie. Le mari en question s'appelle Patrick Lane. L'histoire commence dans le fond au printemps 1861. Patrick Lane, sa femme et leurs quatre enfants ont quitté les États-Unis pour venir s'installer dans la ville de Saint-Jean. Le 19 août, toujours en 1861, Patrick Lane a été renvoyé de la brasserie où il travaillait parce que l'ouvrage manquait. Donc, il a été slacké en bon québécois. Il n'y avait plus assez d'ouvrage pour lui. Et sachant qu'il était malade, là, pas longtemps après, il y a un ami, Philippe McGuinness, qui est allé lui porter du beurre et du pain. Donc, il devait s'imaginer qu'il en arrachait un peu, qu'il avait de la difficulté à boucler les fins de mois. Puis au moment de cette visite, Lane ne lui a pas paru très raisonnable. Donc il avait un comportement étrange. Par exemple, il a dit à son ami qu'il allait mourir. Rien de moins. C'est une belle conversation. Il en était tellement convaincu qu'il allait mourir qu'il a confié sa montre et son argent à son ami. Donc il n'en avait déjà pas beaucoup. Il avait de la misère à manger, qu'il donnait son argent. Et finalement, McGuinness s'est retiré quand il a compris que Lane ne voulait que personne ne parle à sa femme. Donc, en fait, tout ce comportement-là cachait aussi un comportement jaloux excessif. Il ne voulait plus que personne s'approche de sa femme. Donc, voilà, il était en train de lui installer une véritable bulle, si on veut, une bulle surprotectrice autour d'elle. Le 25 août, donc le jour du drame, il y a un dénommé Hubert Faye, un voisin, qui s'est précipité chez les Lane après avoir entendu un coup de feu. Et à son arrivée, il y avait une odeur de poudre, surtout à cette époque-là, avec la poudre noire, ça devait sentir anti-pépère. Donc il y avait l'odeur de poudre qui s'était répandue dans la maison et la victime était renversée sur un berceau. Tous les enfants criaient et pleuraient, donc on peut imaginer un peu l'atmosphère là, quand que M. Faye est arrivé sur place. Même que le voisin a dû éteindre le feu qui commençait à prendre sur les vêtements de la victime. Rien de moins. Là, certains d'entre vous peut-être comprendront pas pourquoi, mais à l'époque, la poudre noire, il y avait du feu qui sortait au bout du canon. De façon assez impressionnante. Et si on tirait quelqu'un à bout portant, ou à bout touchant, ben parfois le feu prenait aux vêtements de la victime. C'est des choses qui y arrivaient. Donc le voisin, lui, s'est occupé de prendre le fusil et les amorces avant de sortir de la maison. Donc il fallait absolument qu'il écarte tous ces objets-là de le plus possible du tueur, et pour éviter justement que Lane fasse d'autres victimes dans la maison. Peu importe, Lane a affirmé que sa femme lui avait demandé de la tuer. Donc voilà, belle défense. Après son arrestation, il a essayé de frapper l'un de ses gardiens avec un bâton, rien de moins. Mais le coup a été évité, heureusement. Lane a subi son procès et il y a un témoin qui a dit que la victime semblait avoir un retard mental. Donc, est-ce qu'on essayait de, de nuire à la victime ici pour excuser le comportement du tueur. En l'absence de son mari, on raconte que José en a chat et ses enfants ne sortaient jamais de la maison, sous peine de recevoir une violente correction. Donc, il les obligeait à rester à la maison même quand lui n'était pas là. Donc, c'est quelqu'un de très, très, très contrôlant. Rien de surprenant, encore une fois, vous me direz. Lane maltraitait sa femme et ses enfants, autant verbalement que physiquement. Ça non plus, ce n'est pas une très grande surprise. Et selon un témoin, il lui arrivait de se parler et de se disputer tout seul. C'est quand même pas rien, là. Non seulement il frappait sa femme et ses enfants, mais il s'engueulait lui-même quand il était tout seul. Ou qu'il se sentait tout seul, parce que là, dans ce cas-ci, il y a eu des témoins de ces scènes un peu folles-là. Au terme de son procès, tenu en mars 1862, bien, Patrick Lane a été acquitté, rien de moins, parce que, et j'ouvre les guillemets, l'accident a eu lieu à un moment où Lane était privé de sa raison, et je ferme les guillemets. Donc voilà, un peu comme aujourd'hui, on parle de non-responsabilité criminelle, à cette époque-là, on parlait d'aliénation mentale ou tout simplement de folie, ben, il a été acquitté parce qu'il n'y avait pas toute sa tête. Autre détail que vous avez peut-être remarqué, jusqu'à maintenant, les victimes ont tous été assassinées chez elles. C'est une caractéristique assez remarquable d'ailleurs. Là, vous allez me dire que Euphrosyne Martineau, là, celle dont j'ai caché la date au début, pour vous mettre en contexte, a été comme assassinée dans un magasin qui appartenait à son jeune mari. Mais quand on dit assassiner à la maison, c'est souvent à la maison ou soit ce qui est arrivé. Donc, c'est un bâtiment qui appartient quand même au milieu familial et qui est très connu à la fois de la victime et du tueur. Donc, ça compte un peu comme la même chose, si on veut. Et on va voir que les cas où la victime est retrouvée hors de la maison ou que l'action s'est passée très loin de la maison, c'est assez rare. C'est pour ça qu'à ce moment-là, il faut pratiquement changer de catégorie puis aller voir vers un autre type d'agresseur. Par exemple, pas récemment, mais je veux dire dans l'histoire plus récente, dans les années 1900, fin 1900 et début 2000, ben, des fois, on a retrouvé des femmes avec des balles dans la tête et tout ça, dans un champ, sur le long d'une route abandonnée. Et souvent, ben, c'est plus des règlements de compte, des femmes qui rôdaient dans le milieu criminalisé, tout ça. Mais quand on parle de femmes sans histoire, assassinées par leur conjoint, ben, la plupart du temps, ça se passe toujours à la maison. 1871, la victime s'appelait Malvina Bissonnette. C'est un homicide domestique par un conjoint non suicidaire. Et cette fois, la façon, vous allez voir que de plus en plus, les conjoints non suicidaires utilisent généralement beaucoup plus de façons de tuer différentes que les conjoints suicidaires qui, eux, se tournent souvent vers l'arme à feu. Donc ici, Villebon Bissonnette, son conjoint de 36 ans, l'a empoisonné. Et l'action se passe à Buckland, dans la région de Bellechasse. On dit, en tout cas, c'est ce qu'on raconte, que Villebon Bissonnette a fini, lui, par se tanner de sa femme, tout simplement. Il voulait plus la voir. Moi, je l'aime plus, là, tu sais, ce genre de bonhomme-là. Et au point qu'il a commencé, à la maltraiter et de développer l'idée de s'en débarrasser, rien de moins. Donc, pour lui, c'était pas assez de l'obliger à écouter ses ordres en la frappant. Il fallait qu'il s'en débarrasse. Donc, sous un faux prétexte, il a réussi à se procurer auprès d'un médecin de l'arsenic, dont il s'est ensuite servi pour empoisonner son épouse, Malvina Bissonnette. Je tiens à préciser que l'arsenic, à l'époque, on s'en servait beaucoup comme poison à rat, pour la chasse aussi, parce que le petit gibier, comme le renard et autres, quand on les empoisonnait, ben, l'avantage que ça avait, c'est que pour les fourrures, ben, il y avait pas de trous, comme les armes à feu en font. Donc, les fourrures étaient de meilleure qualité en utilisant le poison. Donc, c'était plutôt pas en vente libre, mais avec un petit peu de caution, on finissait par se débrouiller pour en trouver assez facilement. Donc, Malvina Bissonnette a été retrouvée morte le 16 novembre 1871 à la maison. Donc, encore une fois, la victime se trouvait chez elle. L'enquête du coroner a conclu qu'elle avait été empoisonnée. Donc, c'est à ce niveau-là déjà qu'on savait qu'elle avait été empoisonnée. En 1872, Bobby Sonnette a été condamné à mort. Selon Maître Fortin, qui écrivait des livres là, sur certaines affaires criminelles du Québec, a souligné dans un de ses livres que pendant l'attente de son exécution, il s'était évadé Bissonnette, mais il a été vite rattrapé. Donc, c'en est un autre qui a été finalement pendu pour le meurtre de sa conjointe. Joseph Benoît et sa jeune épouse de 18 ans, ça faisait seulement 4 mois qu'ils étaient mariés. On disait de Benoît qu'il était un homme à l'aise financièrement, mais que malgré tout ça, le fameux malheur des riches, il a développé une soudaine jalousie quand il a vu sa jeune femme échanger quelques mots avec l'un de ses anciens cavaliers à la sortie de l'église, rien de moins. Donc, lui pensait que les deux flirtaient encore ensemble. Donc, lui, il s'est mis ça dans la tête, il s'est crinqué bien comme il faut. Et le 25 février 1873, le couple est revenu à la maison et vers 19h, Benoît s'est rendu chez un voisin nommé Marcotte. Lorsque Marcotte lui a demandé pourquoi sa femme n'était pas avec lui, ben Benoît a tout simplement répliqué qu'elle était morte. En plus d'ajouter que je viens de l'étouffer. Hein? C'est assez raide, ça, comme nouvelle. Et quand tout ce beau monde, Marcotte, et on imagine que d'autres aussi, se sont rendus jusqu'à la maison de Benoît, de Joseph Benoît, on a retrouvé effectivement la malheureuse étendue près d'un bain. La jeune femme de 18 ans, malheureusement, je n'ai jamais pu apprendre son nom de jeune fille. Donc, on dit d'une femme de 18 ans. Les journaux ont rapporté que le tueur habitait dans le même rang que Modeste Provencher. C'est pas rien, parce que Provencher, c'était une grosse affaire pour le temps. Ça s'est passé aussi à Saint-Zéphyrin de Courval, quelques années à peine auparavant, en 1866-67 à peu près, là, que le dossier s'est déroulé. On n'en a pas parlé parce que c'est un meurtre par passion, donc c'est pas vraiment entre conjoints. Et ce n'est pas une affaire non élucidée non plus, mais je pourrais y revenir plus tard. Mais c'était quand même curieux que les deux crimes se déroulent dans le même rang. Donc, et en plus, à si peu de distance et à si peu de distance aussi dans le temps. Donc, quelques années seulement. Au moment de sa comparution, en mai 1873, Joseph Benoît a été décrit comme un prisonnier gras et bien portant. Et j'ouvre ici les guillemets. On dit que durant l'audition, l'attention du prisonnier a semblé attirée par le tricorne de l'honorable président de la cour et le fou rire s'empara de lui. Ah, rien de moins. Parce qu'à l'époque, il faut le dire, le juge, quand il s'amenait le temps de prononcer une sentence de mort, il se coiffait d'un tricorne. Un tricorne, c'est le chapeau un peu traditionnel, ancien, là, qui se portait à l'époque de la Nouvelle-France, tout ça. Donc, tricorne pour trois pointes. Là, ça va peut-être vous sonner une cloche, vous allez sûrement savoir de quoi il s'agit. Et bon, lui, quand il a vu ça, ben Joseph Benoît, il s'est mis à rire, puis ça a l'air qu'il avait le piton collé, il était plus capable de s'arrêter. Lui, il semblait trouver ça original, là, que le juge se mette ça sur la tête, en plein tribunal. Apparemment qu'il riait tellement que ça a duré quasiment toute la durée du procès, donc ça devait être assez tannant pour le juge. Malgré le sérieux de la circonstance, on parle ici d'un homicide et puis tout ça, mais bon, ça devait quand même être assez spécial. Et qui dit spécial, ben, dit aussi une fin spéciale. Donc, le jury a conclu que Joseph Benoît avait tué sa femme sous l'emprise de la folie. Alors voilà, avec un verdict de folie, ben, l'homme de 28 ans s'en est sorti. S'en est sorti dans le sens qu'il n'a pas été exécuté. Parce qu'un meurtre à cette époque-là, c'était automatiquement la pendaison. Mais bon, ici, on parle encore une fois d'un homicide domestique par un conjoint non suicidaire. Et la façon de tuer, ben, ça a été la strangulation dans ce cas-ci. Il n'y a pas eu de mise en scène, mais encore une fois, je vous le répète, ça s'est passé à la maison. 1881, le 16 septembre, pour être plus précis. Cette fois, la victime s'appelait Démérise Roy, dit Lauzon. Elle avait 56 ans. Donc, c'est une de nos victimes les plus âgées, je pense, jusqu'à maintenant. Parce que les autres étaient assez jeunes. L'action se passe à Sainte-Anaclette, près de Rimouski. Et on va voir qu'il y a une mise en scène dans cette affaire-là. Donc, d'où la raison pourquoi j'ai coché le fait qu'il y a deux scènes de crime dans ça. Son mari, le principal suspect dans ça s'appelait François Moreau. Et c'est au cours de l'été 1881, justement, que François Moreau, que l'on disait âgé de 38 ans, donc 38 ans, et sa conjointe n'avait 56, il y avait quand même un écart d'âge là, qui n'est pas à négliger dans l'analyse des fois psychologique là, d'un couple ou des circonstances d'un crime. Il habitait avec sa femme Démérise Roy à Sainte-Anaclette, près de Sainte-Luce, à 11,2 km de Rimouski. Démérise avait connu un premier mariage, évidemment, avec son âge, avec un dénommé François Saint-Laurent, et avec qui elle avait eu quelques enfants, dont une jeune fille qui s'appelait Emma. Et cette petite Emma-là va jouer quand même un rôle là, ici. On va voir pourquoi. Dans un document qui a été laissé par un auteur anonyme et qui semble avoir été écrit à l'époque des faits, on découvre que Moreau, comme étant un homme à la figure repoussante, parce qu'il n'existe pas de photo nécessairement des criminels, là, ça va commencer plus tard. Donc, il faut se fier à d'autres descriptions pour en avoir une idée. Il y avait le front bas et les cheveux en désordre. Donc, rien pour l'aider, pauvre Tipit. Malgré sa petite taille, on le disait animé d'une force impressionnante. Donc, en plus, il était trapu ou bossupate. Alors, voilà, rien pour aider auprès de la gente féminine. Et en 1879, on raconte que François et Démérise s'étaient séparés avant de reprendre la vie commune 2 ans plus tard. Donc, leur vie de couple était loin d'être parfaite. Démérise avait alors insisté, par contre, au moment de revenir vivre avec lui, pour que Emma, sa jeune fille de 13 ans, vienne habiter avec eux. Donc, elle se sentait plus à l'aise avec sa fille dans la maison. Au matin du 16 septembre 1881, le couple a quitté la maison pour s'enfoncer dans les bois. Démérise avait l'intention de cueillir des noisettes, mais Moreau, lui, la suivait seulement en transportant une faux sur l'épaule et une hache à la main. Hein? Rien de rassurant. Même une scène au cinéma nous montrerait cette image-là. On devine un peu ce qui va suivre. Emma, la jeune fille de 13 ans, là, bon, que son beau-père avait forcé à rester à la maison, les a regardés s'éloigner. Donc, elle, malheureusement, n'a pas pu défendre sa mère par la suite. Et vers 17h, Moreau est revenu tout seul, hein, comme un grand garçon. Il a interrogé Emma et les voisins pour savoir si on avait vu Démérise. Donc, il faisait semblant. Il faisait semblant qu'il avait perdu sa femme en cours de route. Puis là, il faisait semblant de la chercher, tout ça. Donc, déjà ça, ce comportement-là, c'est de la mise en scène. Parce qu'il essaie de pousser les doutes. Il essaie de faire un scénario, si on veut. Et rapidement, on a remarqué que, justement, ses efforts pour retrouver sa femme se sont amenuisés rapidement. Il ne s'est pas investi beaucoup pour la chercher, c'est ce qu'on dit. Le corps de Démérise, finalement, a été retrouvé le lendemain matin. À cette époque-là, vous comprendrez que les recherches ne pouvaient pas être effectuées la nuit ou tard le soir avec une lampe à l'huile et tout ça. Donc, on a sûrement suspendu les recherches assez tôt dans la soirée. Et il semble, quand on a découvert le corps de Démérise, il est apparu assez clair apparemment qu'on l'avait traîné sur une certaine distance puisque les noisettes accumulées dans ses poches s'étaient répandues au sol. Alors voici deuxième signe évident qu'il y a eu mise en scène parce que non seulement il essayait de former un scénario, mais il l'aurait traîné pour essayer de, peut-être dans son esprit, essayer de brouiller encore les pistes, essayer de l'éloigner de l'endroit où le crime s'était réellement produit. Et à la découverte du cadavre, Moreau, lui, se serait brièvement réfugié dans les bois pour pleurer. Donc, il avait besoin de pleurer tout seul, sa peine, en solitaire. Pauvre petit Pete! Et lorsqu'on a procédé, finalement, vous aurez compris que on l'a soupçonné assez rapidement. Même si on veut pas être péjoratif pour les gens de la campagne mais, et de cette époque-là. Mais les gens n'étaient pas des nonos non plus. Hein? On s'en doutait pas mal que c'était lui là, avec un comportement comme ça. Donc, on l'a arrêté. Et quand on l'a arrêté, lui a déclaré « Je n'ai donc plus d'amis ». T'sais, il était comme surpris de voir que tous ses amis se retournaient contre lui. Mais peut-être que justement, ses amis voyaient clair dans son jeu. Ou alors qu'il pensait avoir des amis puis qu'il n'y en avait jamais eu finalement. Donc, M. Moreau a subi son procès en octobre 1881, à Rimouski, on va s'en dire. Emma, la jeune fille de 13 ans, a raconté que l'accusé ne faisait pas bon ménage avec sa mère. Donc, elle a pu, heureusement, témoigner de cette partie-là, c'est-à-dire le climat familial, donc c'est ce qui pouvait se passer sous le toit des Moreau. Alors, c'était quand même important dans cette cause-là. Quant au témoin, lui, qui a découvert la victime, donc a été la première personne à voir le corps de Demrise, lui, il raconte que la victime avait la tête et le bras droit de la défunte était passé entre deux arbres. Là, je lis exactement sa déclaration. Et je lis aussi également la suivante. Elle avait la figure en l'air, la joue gauche couverte de sang, les yeux fermés, noirs et remplis de sang. Ses habits n'étaient pas brisés. La tête se trouvait dans une petite baisseur, si on peut dire une dénivellation. Et je ferme les guillemets. En voyant le corps, Moreau, lui, de son côté, y aurait lancé « qui peut lui avoir fait ça? » Avant de s'effondrer en larmes, évidemment. Je ne sais pas s'il était bon, mais il essayait au moins de faire son comédien de ce côté-là. Un instant plus tard, ben, il ajoutait « Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont faire de moi? Eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire de toi, mon cher Moreau? » Ben, c'est qu'il a été reconnu coupable et il a été pendu le 13 janvier 1882 à la prison de Rimouski. Et on va juste revenir sur la catégorie, encore une fois, quand même assez important. Que, il s'agit d'un homicide domestique par un conjoint non suicidaire. Et il y a eu mise en scène, comme on l'a dit tantôt. Et l'objet, c'est un objet contondant dont il s'est servi pour l'assassiner. Et vous aurez peut-être remarqué que c'est le premier cas vraiment qui se passe, la scène de crime est à l'extérieur de la maison. On pense, là, j'ai pas engagé les arpenteurs pour avoir une réponse claire, mais il semble que ce soit passé quand même sur les terres de Moreau, donc à l'extérieur, dans un certain boisé. Donc c'est quand même en région connue, c'est quand même pas très loin de la maison. Mais c'est ça, vu qu'il y a eu mise en scène, j'en ai parlé dans une autre balado aussi, là, pour défaire la théorie... de la fameuse victime non identifiée retrouvée dans la rivière des Prairies en 1953, que ça n'avait pas d'allure de mettre la théorie d'un conjoint quelconque, là, comme ça a été avec la fameuse théorie de Marie-Paul Rochette, qui aurait été, assassinée par son mari. Donc, ça ne tient pas la route, le fait que ce soit un crime de cette catégorie-là, parce que, justement, c'est ça, le... Tout le contexte et tout ça, vous irez voir la balado, là, je l'explique pas mal mieux qu'aujourd'hui. Mais voilà, c'est ça, c'est que tous les crimes domestiques, normalement, se passent à la maison, donc chez la victime. Ou si ça se passe pas directement chez la victime, il y a eu mise en scène, mais des mises en scène épouvantables, comme on essayait de nous faire croire dans l'affaire de la victime de 1953. Ben, ça tient pas. Donc, quand on parle de mise en scène, c'est des affaires quand même assez légères. On voit ici que Moreau essayait de faire croire qu'il avait perdu sa femme puis qu'il voulait la retrouver. Et, qu'il a déplacé le corps un peu, tout ça, on comprend pas trop pourquoi, par exemple, là, cet aspect-là. Mais voilà, c'est quand même pas aussi exagéré là, qu'on a voulu nous faire croire en 1953. On se transporte maintenant à la fin du 19e siècle, donc en 1898, pour le meurtre de Malvina Desmarais. Elle aussi a été victime d'un homicide domestique par un conjoint non suicidaire, mais cette fois-ci, le fameux conjoint non suicidaire a utilisé une arme à feu. Ça se passe sur la rue Poupart à Montréal. Il y a une seule scène de crime, comme c'est souvent le cas aussi dans ce type de crime-là. Il y a une seule scène. Donc, ce qui est étrange un peu ici, c'est que l'accusé dans cette affaire-là, c'est son gendre. On va dire pourquoi plus tard que ça reste quand même un homicide domestique par un conjoint. Donc, son gendre, qui s'appelait Elzéar Mann, il a été condamné à mort, lui, plus tard, mais sa sentence a été commuée en emprisonnement à vie. Le 11 juin 1898, Elzéar Mann a utilisé un revolver pour régler ses comptes avec l'amant de sa femme, donc rien de moins. Sa femme s'était faite un amant et il voulait régler ça absolument. Plutôt que d'éliminer la source de ses malheurs, donc de tirer sur Malvina, son intervention a causé la mort de sa belle-mère, Malvina Desmarais. Donc c'est pour ça qu'on parle ici de relation entre le tueur et sa victime de gendre à belle-mère. À l'arrivée des policiers, la victime était étendue sur le plancher. Le drame s'est produit chez Malvina, donc encore une fois chez la victime, qui possédait un restaurant avec sa fille Sophie Desjardins sur la rue Poupart, près de la rue Ontario. Là, vous allez me dire, mais pourquoi qu'il met ça dans cette catégorie-là de conjoint non suicidaire, et puis finalement, c'était pas son conjoint, c'était le gendre et sa belle-mère. C'est pas que la belle-mère couchait avec son gendre, c'est pas ça du tout, mais c'est que la motivation initiale, il faut y aller vraiment sur la motivation des tueurs. Sa motivation à lui, c'était il réagissait dans le fond à ce que sa femme lui a fait subir, ou bon, qu'il disait avoir subi, donc Sophie Desjardins. Donc, il s'en allait là pour la tuer, pour régler son problème, mais finalement, ça a mal tourné, on sait trop pourquoi. Et puis, bon, c'est la belle-mère là, qui a écopé des tirs de revolver. Donc, pour mieux comprendre l'histoire, on revient un petit peu dans le passé. Elzéar Mann et Sophie Desjardins s'étaient séparés, donc oui, hein, on comprend pourquoi. Puis, à son retour à Montréal, lui, il s'était absenté, puis il avait découvert que Sophie avait un autre homme dans sa vie. Au bout de 3 jours, elle avait tout de même accepté de reprendre la vie commune avec lui. Donc, on a dit, bon, OK, on m'a plié sous mon orgueil, puis je vais te reprendre avec moi. Mais leur relation est devenue infernale, donc ça n'a jamais marché. Puis, lors du procès, il dira même là-dessus, j'ouvre les guillemets, « J'avais averti ma femme de ne plus recevoir d'amant, et samedi, je vis entrer un individu chez moi. Exaspéré, je monte au logis bien décidé d'en finir. » Je veux ouvrir la porte de la chambre de ma femme afin d'en chasser le misérable. Ma belle-mère s'y oppose. Alors vous comprenez. J'ai vu rouge et j'ai tiré. Ma belle-mère est tombée. Je ne me rappelle plus de ce qui s'est passé après ce moment-là. Et je ferme les guillemets. Donc voilà, c'est ce qu'il prétend avoir. Mais aussi, on pourrait. C'est pour ça que ce meurtre-là. Parce que ce qu'il dit, c'est qu'il voulait s'en prendre à l'amant de sa femme, mais là, il laisse sous-entendre qu'elle en avait plusieurs. Hein. C'est quand même assez... parce qu'il dit aussi qu'elle vivait avec un autre homme, et j'avais averti ma femme de ne plus recevoir d'amant au pluriel. Alors, c'est quoi cette affaire-là? Est-ce que sa femme, finalement, elle n'était pas une prostituée? Comme ça arrivait, bon, il y a des prostituées qui se disaient mariées encore, mais finalement, elles ne vivaient plus avec leur mari. Et on va comprendre, pourquoi. En tout cas, Mann a finalement été accusé du meurtre de sa belle-mère et de tentative de meurtre à l'endroit de sa femme. Donc, s'il y a cette tentative-là à l'endroit de sa femme, c'est parce que la justice avait assez de détails pour procéder dans ce sens-là. Donc, ça reste un homicide par un conjoint non suicidaire. Le procès, lui, de son côté, a permis d'apprendre que Mann avait récupéré son revolver qu'il avait mis en gage vers 16 heures au cours de la journée du 11 juin. Donc, la journée même du crime, il est allé récupérer son arme. Donc, il était vraiment décidé. Il a tout fait cette journée-là. Devant témoin, en plus, il avait chargé de 6 cartouches. Donc, il était prêt, là. Sophie Desjardins, donc son épouse, a juré de ne jamais avoir entretenu de relations sexuelles avec son oncle Magloire Poirier en défense. Ça, on a la réponse, mais on n'a pas la question. Mais j'en déduis que probablement que la défense essayait de la faire passer pour une femme facile ou qu'elle couchait avec ses oncles et plusieurs autres hommes, finalement. Mais apparemment qu'elle avait dit le contraire devant le coroner. Donc, est-ce que ça arrive aussi, hein? Toutes les femmes ne sont pas des saintes, mais il faut être honnête. Donc, celle-ci, peut-être qu'elle n'était pas trop honnête là, dans ses réponses. Et on dit que depuis son crime, SZR Man avait perdu beaucoup de poids et que ses traits s'étaient transformés. Donc, il était vraiment affecté là, par ça. Est-ce qu'il était en dépression? Je ne sais pas, parce que là, si on parlait de dépression, peut-être qu'il faudrait changer de catégorie à ce moment-là. Et penser qu'il serait peut-être suicidaire. Puis, bon, de son côté, pour sa bio personnelle, il a raconté être né à Pointe-Gatineau et que pendant 6 ans, il avait travaillé comme conducteur de malle avant de se marier et de devenir père de famille. Puis, le soir du drame, c'est en voyant un homme coucher avec sa femme qu'il a ouvert le feu. C'est ça qu'il dit, encore une fois, il le répète. Donc, je pense par ces réponses-là qu'il a probablement témoigné à son propre procès, ce qui n'est pas courant, mais ce qui n'est pas rare non plus. Puisque la belle-mère s'est interposée entre lui et le mystérieux inconnu, c'est lui qui devait encaisser... C'est elle, qui devait encaisser le projectile fatal. Elle a été atteinte en pleine tête, rappelons-le. Le 4 novembre, l'accusé a été reconnu coupable et condamné à être pendu le 16 décembre. Dans ce temps-là, il n'y avait pas un gros délai entre la condamnation et la pendaison. Mais comme je l'ai dit d'entrée de jeu, sa peine à M. Mann a été commuée en emprisonnement à vie. Mais le 21 juin 1909, donc, mon doux, une dizaine d'années, même pas, après les faits, la presse annonçait la libération de Mann après 11 ans de pénitencier. Donc ça veut dire qu'on incluait probablement l'attente qu'il a probablement faite en prison entre le crime et le procès. Et ce qu'on dit, c'est que Mann aurait été un détenu exemplaire. Donc c'était un bon petit garçon qui voulait tuer sa femme parce qu'il y avait des problèmes d'immaturité sentimentale. Mais bon, ça c'est pas grave. Donc, pour le premier épisode de féminicide, on va s'arrêter ici. On a quand même vu plusieurs exemples. Dans le deuxième épisode, on va voir quelques chiffres. On va revenir un peu plus sur le profil entre le conjoint suicidaire et non suicidaire pour apprendre à déceler les deux. Et vous allez voir qu'à un moment donné, quand vous allez regarder les nouvelles et que malheureusement, on ne le souhaite pas, mais il va sûrement en avoir d'autres. Quand il y aura d'autres féminicides, vous allez peut-être pouvoir distinguer, selon certains détails, entre le conjoint suicidaire et non suicidaire. On essaie de comprendre tout le temps, hein. On est toujours dans la même veine, on se prend pas pour personne d'autre, mais on essaie de comprendre. On essaie de pousser un peu plus loin l'étude, les observations, tout ça, faut vraiment... essayer de s'ouvrir l'esprit pour essayer d'observer, de comprendre finalement, je me répète. mais tout ça pour dire que dans un sujet aussi sérieux, il faut quand même rester les deux pieds sur terre, rester froid, parce que si on laisse aller nos émotions, c'est facile, mais on va en tirer des conclusions des fois de travers et bon, ça sera pas tout à fait... ça servira pas de la même façon après, je pense. C'est moins professionnel si on laisse embarquer nos émotions. Ça va souvent sur des... Ça déborde, là, et ça va dans... Ça déraille, finalement. Alors, je vous laisse là-dessus et je vous dis au prochain épisode numéro 2 du Féminicide. Merci. Au revoir.